Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session de questions-réponses.
Médiane, qu'est-ce que c'est? Ben, on est une société de coaching d'acteurs, de jeux et de carrière. On existe depuis 25 ans. Et on travaille beaucoup avec les directeurs de casting, avec les agents, avec les réalisateurs. On est issus tous les deux de production, de sociétés de production. Donc, on a quand même pas mal de connexions et d'infos en allant et en se promenant dans tous les festivals et manifestations pro diverses et variées. Et voilà. Et on a mis en place un certain nombre de choses au fur et à mesure des années. On a mis des ateliers, on a fait des stages. Enfin, on a commencé par les stages, hein, les stages casting, c'est nous qui les avons lancés avant que ça ne devienne la coqueluche du marché. On a fait des ateliers, on fait des rendez-vous perso aussi pour bien travailler spécifiquement sur les carrières des uns et des autres. Et puis on a mis en place tout dernièrement, il y a une petite année, un abonnement annuel qui s'appelle l'ACRED. Qui recense toutes les questions auxquelles on répond aussi beaucoup pendant ces rendez-vous de conseils individualisés. Et donc là, comme il y en a qui se recoupent et qui reviennent quand même systématiquement, on s'est dit qu'on allait les mettre sur une plateforme, que chacun puisse finalement les écouter tout au fil de l'année comme il le veut, comme il le souhaite, au moment où il en a besoin. Voilà. Ça, c'est un abonnement annuel qui s'appelle la Crède.
On a déjà des questions qui sont arrivées par écrit, par mail, parce que vous avez la possibilité d'envoyer les questions par mail avant.
Il y a une question qui est, en cette période de vœux, quel est le bon moment pour relancer un agent contacté juste avant Noël?
Je dirais attendez le 15 janvier, histoire que tout le flux des bons vœux soit passé. Puis s'il s'agit d'une relance pour votre candidature par rapport à son agence, on y va avec cet objet-là. On profite de son mail, puisqu'on est en janvier, pour lui souhaiter aussi une bonne année. Mais on ne souhaite pas une bonne année pour rentrer dans l'agence. Voilà.
D'une manière générale, un petit aparté sur les vœux, quand vous envoyez un mail de vœux, d'envoyer qu'un mail de vœux. Voilà. C'est que pour des vœux, c'est pour souhaiter la bonne année à l'autre. Ce n'est que
ça. Des vrais vœux.
C'est des vrais vœux. Vous leur souhaitez vraiment des choses et pas qu'ils vous donnent du boulot.
Voilà, ce qui sous-entend qu'on envoie à des gens plutôt qu'on connaît, ou dont on connaît, dont on a une bonne appréhension, avec qui on a déjà eu des contacts, qu'on apprécie. Et voilà, faites des vœux sincères et pas des vœux protocolaires qui ne servent à rien, qui n'intéressent personne. C'était pour la première.
La parenthèse question. Sur les vœux. Et pour envoyer un mail de premier contact à un agent, vaut-il mieux attendre la dernière semaine de janvier?
En janvier, vaut mieux attendre après le 15.
Ça, c'est sûr.
Ça, alors, c'est certain, oui.
Dernière semaine, c'est pas forcément.
C'est la semaine du 15. Enfin, à partir du 15 janvier, on est déjà mieux.
Surtout qu'en plus, cette année, la rentrée de janvier est tard, puisqu'on a des cours aujourd'hui.
Donc, c'était hier le retour. Donc, en fait, ils sont tous un peu. Tous ceux qui ont des enfants, en tout cas, sont peut-être un petit peu. Oups.
Oui, puis tous les acteurs qui ont des enfants recontactent les agents qui n'en ont pas.
Ouais.
Ils doivent être un peu bookés là. Donc en tout cas, attendre après le 15 janvier.
Ouais, attendez qu'ils aient éclusé tous leurs mails, attendez que tout ça, quoi. Le festival Premier Plan est-il vraiment intéressant, sympathique pour les accrédités? J'ai vu sur leur site et je ne comprends pas trop le programme horaire. Alors, moi, j'y suis jamais allée au Premier Plan, mais il a quand même une très bonne réputation. Et surtout, ce sont des premiers films. Premier long, notamment des films de courts-métrages de très haut niveau. Donc quand même, toute la profession s'y balade, repère, regarde et se tient au courant de qui est programmé dans ce festival. Donc je pense que c'est un festival auquel il faut aller. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un y est déjà allé dans l'assistance.
Mais moi, j'habite Angers, alors c'est plus facile. Mais je le recommande. C'est vrai que c'est un festival qui reste accessible, il n'y a pas trop de monde.
Voilà, et c'est quand même un festival dont tout le monde regarde un peu la sélection parce que c'est quand même du haut niveau.
Et puis en plus, là pour le coup, Anne, je sais, c'est Anne qui a posé la question.
Ouais.
C'est dans la CRED, il y a il y a vraiment plein de questions sur les questions des festivals. Et réécoute le webinaire sur les festivals justement.
Oui.
Parce qu'il y a tout le pourquoi aller en festival et c'est pas uniquement pour rencontrer toute la profession loin de là.
Non,
et Angers est vraiment, vraiment, vraiment super pour être en découverte. Et si vous avez des envies de faire du cinéma, d'être, de travailler plus en cinéma qu'en télé, allez vraiment vous balader là-bas parce que c'est la rencontre avec tous les jeunes réalisateurs de demain qui sont certainement plus aussi à même de rencontrer des acteurs ou des actrices. Ils vont avoir besoin de stars pour leur premier rôle, mais après, ils vont avoir besoin des autres rôles. Et c'est vraiment l'endroit de faire les premières rencontres et ça peut être super pour vous. Pareil pour les producteurs, pareil pour les scénaristes. Enfin, vraiment.
Puis vous allez voir plein de beaux films aussi.
Et vous allez voir plein de beaux films. Enfin, donc c'est vraiment Puis ça vous positionne, hein. Si vous mettez, ne serait-ce que mettre sur les réseaux sociaux que vous êtes sur le au festival les premiers plans d'Angers, ben ça vous positionne sur vos envies et sur vos réseaux et sur vos objectifs, etc., etc. au regard de la profession.
Effectivement.
Et d'une manière générale, quand même, alors il y a deux moments où, qui sont, si vous vous questionnez tout le temps sur est-ce qu'il faut, à quel moment il faut aller en festival, c'est soit l'ouverture, soit la clôture, mais l'ouverture est souvent bien mieux. Parce que tout le monde est très disponible, tout le monde est là, il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent au début des festivals. Et surtout, vous commencez, vous êtes dans le flux des gens, avec les gens qui vont être là à l'ouverture, etc. Et vous avez déjà une histoire commune avec tous les gens qui seront déjà là. Si vous arrivez au bout de 3 jours, bah, c'est arrivé, c'est comme si vous arrivez à une fête après 3 heures que la fête est commencée, quoi. Après, ça peut être sympa d'arriver dans une fête après 3 heures que tout est commencé, tout le monde est un petit peu, festif et tout ça, et on est direct dans l'ambiance, mais c'est pas pareil. On n'est pas au même endroit.
Et regardez aussi bien le programme. Après, tout dépend aussi du programme et de ce qui vous intéresse de voir ou d'entendre ou de regarder.
Et de vos finances et de votre temps, etc., etc., bien sûr.
Et ensuite, une question de Thomas. Comment trouver un agent? Alors, Thomas, comment trouver un agent? Il y a dans la CRED plein de questions déjà disponibles du type est-ce que c'est le bon moment pour moi de chercher un agent? Qu'y a-t-il à faire avant de commencer à chercher un agent? À quel moment de votre carrière faut-il aller chercher un agent? Si je n'ai pas d'agent, est-ce que je peux demander à un agent de négocier mon contrat? Il y a beaucoup d'agents, comment cibler celles et ceux que je dois contacter? Quels agents choisir lorsqu'il y en a plusieurs dans une même agence? Quel est le meilleur moment pour contacter un agent dans l'année, dans la semaine, dans la journée? Comment prendre contact avec un agent par email? Pour quelles raisons un agent choisit-il un acteur ou une actrice? Quel suivi après la première prise de contact avec un agent? Comment se préparer pour un premier rendez-vous avec un agent? Donc, il y a déjà tout ça dans la CRED. Plus, je fais un atelier de 4 heures sur comment trouver un agent. On passe en revue toute la liste des agents. Je vous dis tout ce que je sais sur eux de façon à ce que vous puissiez cibler à qui vous adresser, parce que ça ne sert à rien, effectivement, dans votre recherche d'agent, d'aller envoyer un mail à tout le monde. Donc, je passe 4 heures là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait toute la liste, c'est comment on les contacte, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, comment on s'y prend. Et comment on fait jouer ces réseaux quand il y a besoin. Donc, vraiment, tout ça, on le voit en 4 heures. Je peux vraiment. Là, ça va être difficile de l'expliquer en 5 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'éléments que tu vas devoir faire toi. Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir
Mettre en place, ouais.
mettre en place toi et décider toi. Et puis ensuite, il y a toute la liste des agents sur agenceartistique.com, hein. Il y en a plus de 60. Donc voilà, celle-là, elle est disponible. C'est facile. Ils sont tous là. Mais après, c'est vrai que ça, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et beaucoup de choses. Ça dépend aussi beaucoup de comment vous êtes, chacun, chacune, de avec qui vous avez envie de travailler, de comment vous avez envie de travailler, de qu'est-ce que vous attendez, de qu'est-ce que vous souhaitez, de voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, du coup, ça demande plus d'une session de questions-réponses.
D'accord, merci.
Voilà. Et sinon, je fais des rendez-vous perso aussi là-dessus. Pour bien travailler sur chacun. Ça dépend vraiment de chacun. C'est très personnel, la recherche d'agent et la façon de faire.
Et là-dessus, d'une manière générale, il y a, enfin, d'une manière générale, faire attention.
Oui.
D'une manière générale, faut faire attention aux généralités.
Ah.
Donc, c'est pour ça d'ailleurs que Emmanuel prend 4 heures pour ça, et c'est pour ça qu'on a fait la CRED, et c'est pour ça qu'on essaie de répondre aussi à toutes vos questions, parce qu'il y a des portes d'entrée différentes pour chaque question, il y a des cas différents, des cas de figure, et donc il n'y a pas une règle pour trouver un agent, il n'y a pas une règle pour avoir plus de
Non.
casting, il n'y a pas une règle pour avoir un César. On a une petite,
Ah, il y a des
non.
questions là
Oui,
aussi.
mais il y a
Ah
une
oui.
question arrivée.
Ouais.
Alors, elle est un peu longue, donc je vais essayer de la résumer. Grosso modo, c'est une comédienne qui a tourné dans un court-métrage et elle a proposé à l'équipe de projection d'organiser une
Une
séance
projection.
projo pour présenter son court-métrage. C'est un court-métrage qui dure 5 minutes. Et pour que cette projection soit un petit peu plus, comment dire,
D'étoffer.
étoffée, elle avait proposé à 2 autres réalisateurs, réalisatrices, de se joindre à elle pour justement présenter aussi leur court-métrage. Donc, il y a un autre réalisateur avec qui elle a joué, donc il présentera aussi un court-métrage. Et le troisième ou la troisième, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, devait aussi présenter un court-métrage dans lequel cette comédienne ne jouait pas, et pour autant ce réalisateur, cette réalisatrice, finalement, ne viendra pas. Donc la question qui se pose, est-ce que ça vaut le coup d'organiser une projection avec 2 courts-métrages dans lesquels elle joue? Et est-ce que ça fait pas un peu moi-je, moi-je, moi-je? Est-ce que un seul court-métrage de 5 minutes, est-ce qu'on déplace tout son réseau pour un court-métrage de 5 minutes? Donc toutes ces questions-là se posent. Est-ce que c'est une bonne idée finalement de faire ça? Et si oui, qu'est-ce qu'elle devient l'objectif d'une telle projection? Et tout ça, c'est super intéressant, ces questions. Donc finalement, il y a trois questions, presque, il y a trois questions à laquelle on va répondre. En ce qui concerne organiser un court-métrage, organiser une projection d'un court-métrage de 5 minutes, uniquement 5 minutes, c'est faisable, ça se fait. Il faut pas oublier que les projections, en général, et d'une manière générale, quand elles sont faites, c'est pour que les réseaux se rencontrent. C'est pas forcément pour voir un court-métrage. Que de toute façon, tu pourras, enfin, que n'importe qui peut envoyer en lien privé par Vimeo après. Donc la projection et ces rendez-vous, de notre métier ne sont pas pour qu'on regarde les films ou pour qu'on voit les pièces, ils sont essentiellement pour que les gens se rencontrent. Donc du coup, vraiment, la projection, alors là, je réponds aussi à la question, quel est l'objectif de la projection? Oui, faire un peu de buzz, en parler sur les réseaux sociaux, montrer que ce court-métrage existe et faire que les gens se rencontrent. Donc faire une projection autour d'un court-métrage, c'est pas complètement déconnant. Effectivement, ce sera plus porteur s'il y a deux ou trois ou quatre courts-métrages pour une raison très simple, c'est que les réseaux vont se cumuler, ils vont s'ajouter. C'est-à-dire que tu as le réseau d'un premier court-métrage, plus le réseau du deuxième court-métrage, plus le réseau du troisième court-métrage, et ce qui fait que d'autres réseaux vont se mélanger. Et c'est là où ça devient intéressant de faire une projection pour deux, trois, quatre courts-métrages, parce que plusieurs réalisateurs et plusieurs équipes se mélangent et sont garantis de se rencontrer. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que toutes les équipes se rencontrent. Donc s'il y a possibilité de faire une projection avec deux films ou avec trois films, ce sera toujours mieux qu'avec un film, effectivement, et évidemment. Tant s'il n'y a qu'un film, il n'y a qu'un film, et ça emmènera avec vous, avec comment dire, toute l'équipe de ce film, et ça réjouira sûrement toute l'équipe de film. Il faut que tout le monde joue le jeu d'inviter tout le monde des gens. Et c'est pour que ces gens, donc les gens de la profession, évidemment, votre boulangère du coin, même si elle est très sympathique et qu'elle vous offre des croissants tous les dimanches matin, c'est pas forcément utile de l'inviter, mais que tous les gens de la profession puissent se rencontrer. Et alors, pour la réponse à moi je, si je fais une projection avec deux courts-métrages dedans, après, c'est aussi une question de positionnement. C'est-à-dire que si vous organisez une projection avec deux films dans lesquels vous jouez, vous pouvez aussi complètement assumer le truc en disant, j'ai voulu organiser cette projection parce qu'il y a deux réalisateurs que j'adore et je veux absolument que vous voyez ces films. Et c'est pour ça que j'ai organisé cette projection-là. Je suis ravi de leur donner la parole. Ça me fait tellement plaisir qu'ils donnent, qu'ils m'aient offert ces rôles pour ces thématiques-là, pour ces propos-là, etc., etc. Et assumer le discours et
C'est toi qui l'organise, donc en fait,
c'est très
c'est
bien
toi
et
qui décides.
ça peut être extrêmement intéressant aussi, c'est une vraie démarche et les réalisateurs vous en seront gré de toute façon si vous faites ça et ça enfin voilà et c'est un discours qui est très clair et qui est complètement possible et tout à coup on se dit ah bah voilà une comédienne qui au moins comment dire participe aussi elle n'est pas seulement passive et qui participe à la visibilité des courts-métrages et qui participe à la visibilité de son travail et c'est très bien. Enfin, ça peut aussi être une porte d'entrée. Donc effectivement, et les différents objectifs, c'est vraiment le développement du réseau, c'est de montrer un film, de le rendre visible, de faire le buzz, de se montrer, de faire que les gens se rencontrent. Après, c'est à chacun de faire de trouver vos propres objectifs là-dedans et de redonner sens à cette projection qui a priori en a un peu perdu puisqu'il n'y a pas autant de réalisateurs que prévu. Après, si les invitations sont prononcées, il y a, je pense, toujours moyen de trouver un autre court-métrage ou deux autres court-métrages sur la place de Paris. Il y a peut-être aussi cette réflexion à avoir, parce que ça, il y a des réalisateurs et des réalisatrices à
Mais
Paris.
il n'y a pas besoin d'avoir trop de courts-métrages.
Non,
Enfin,
mais s'il y en a trois ou quatre, c'est bien.
oui, mais il peut
Parce
y
que
en avoir
là,
que deux.
oui, voilà, absolument, il peut y en
Pas
avoir que
du
deux.
tout. Surtout qu'il y en a un qui fait 20 minutes et l'autre 5 minutes. On est déjà à 25 minutes quand même.
C'est ça les durées, je sais plus,
Je
oui.
crois que c'était ça.
Donc,
Donc c'est déjà une projection d'une demi-heure. Ça fonctionne très très bien. Hein. C'est agréable. Je ne sais pas à quelle heure c'est, mais ça peut laisser l'opportunité de faire une autre soirée derrière. Ça peut laisser l'opportunité de justement d'avoir le temps de discuter avec les artistes qui seront là ou avec les équipes qui seront là, ça peut vraiment, il y a un vrai moment de rencontre derrière, quoi, c'est agréable.
oui, et puis il y avait aussi la question, je voulais aussi proposer un autre film dans lequel j'ai tourné et que j'aime et qui est plus expérimental. Et ça peut complètement aussi de montrer des films expérimentaux qu'on ne verrait pas dans d'autres occasions et que là on est à l'occasion et que du coup on voit deux films un peu plus, pardon du terme, mainstream, c'est-à-dire des histoires que je sais pas courantes, donc là filmées de manière un peu plus attendue. En tout cas, voilà, et tout à coup on arrive sur quelque chose de plus expérimental et ben, c'est l'occasion de les voir, de les montrer. Donc,
Mais pour en être fier,
il faut en être fier, il
c'est
faut
le
être
seul truc.
content. Et donc, tout est possible, c'est une question de positionnement. Et donc, assumez, si vous avez ces envies-là, et faites-le. Et en tant que comédien ou comédienne, vous avez tout à fait, le droit, entre guillemets, enfin, de prendre
Comme n'importe
ça,
quelle prod, en fait, hein.
oui, comme n'importe qui, il n'y a pas de raison.
Alors, Francesca, est-ce qu'il y a encore des réductions sur les coachings médianes quand on a un abonnement Crew United?
Ah oui.
Oui,
Oui,
oui, oui, oui, oui.
mais il faut...
sur les coachings. Attends, non, attends,
C'est
attends,
quoi
non,
comme
non,
la
c'est pas,
question? On
non,
verra
pardon.
ça à la fin, en fait.
Non, puis en plus sur les coachings médianes, non, il n'y a jamais eu d'abord, il y a une réduction sur l'accred médiane quand vous êtes membre Crew United. Mais il n'y a pas de réduction sur les coachings médianes quand vous êtes membre
De Crew
de
United.
Crew United. Non, ça, il n'y a jamais eu. Il y a eu des réductions sur l'accred médiane quand vous êtes membre de Crew United.
D'accord.
Voilà.
Ouais, mais enfin, avec la CRED, on a quand même 3 heures de coaching dedans.
Absolument.
Oui, avec la
Voilà.
CRED
Donc
Premium.
c'est
Avec la
pour ça
CRED.
que je pensais à ça.
Oui,
Avec la CRED Premium, oui.
oui.
Avec la
Oui,
CRED Premium, oui,
d'accord.
tout à fait.
Du coup, vous vous envoyez un petit mot ou
Oui, il faut nous envoyer, bah, faut nous envoyer un petit mot avec la preuve que vous êtes que tu es
membre Crew United.
membre United.
Ok.
Voilà.
Ok.
Comment démarcher les agents sans que ça paraisse inélégant quand on en a déjà un depuis peu, mais qu'il ne convient finalement pas?
Ah, ça c'est une vraie question.
Alors, pour que ce soit le plus fluide possible, la meilleure solution, c'est d'en parler à son agent. D'aller voir son agent, de faire un point, sous couvert de aller faire un point avec ton agent, tu tâtes le terrain pour voir. Et dans la discussion, tu essayes de l'amener à ce que ce soit lui qui dise que finalement, vous n'allez pas y arriver ensemble. En gros, c'est à peu près ça. Comme ça te laisse la possibilité de négocier, de rester sur son site le temps que tu trouves quelqu'un d'autre, voire même qu'il te recommande à d'autres personnes, et que tu puisses aller voir d'autres personnes de sa part. Ça, c'est des choses qu'on prépare aussi quand on fait quand on travaille ensemble là-dessus. Mais en gros, le mieux, ça, c'est la meilleure solution. C'est la solution la plus idéale. Après, tout dépend de qui tu as comme agent et de comment il est positionné sur le marché. Parce que tu peux très bien aller voir d'autres agents qui, s'ils ne sont pas dans sa catégorie, n'iront de toute façon pas l'appeler en lui disant, tiens, j'ai vu que est-ce que tu sais que ta comédienne est en train de se barrer? Si tu vas voir des agents qui sont dans la même catégorie que le tien, tu as ce risque-là. Et là, pour le coup, tous les gens que tu vas aller voir ne te prendront pas parce que ils s'apercevront qu'effectivement, tu n'en as pas parlé à ton agent avant de faire les démarches. Et voilà. Si tu vas voir des gens qui sont d'une autre catégorie, ça va mieux. En général, ils s'appellent pas entre eux. Donc voilà. Et dernière chose, là pour le coup, les festivals sont hyper intéressants parce qu'il y a beaucoup d'agents qui vont en festival ou dans les manifestations pro. Et c'est beaucoup plus facile à l'oral de glisser à l'oreille de quelqu'un qu'on est en train de voilà qu'on cherche une nouvelle collaboration que de le faire par écrit. Co comment entretenir une bonne relation avec son agent? Bah, tout simplement en étant sympa avec,
Non, mais pas
hein.
que.
Il faut être à l'écoute aussi de l'agent. C'est-à-dire, on peut avoir. Je sais que vous êtes tous très, très impatients à chaque fois, que vous voulez absolument travailler, avoir des rôles, des machins, des trucs, ça j'entends bien. Mais dans ce milieu, c'est tout sauf l'urgence, en fait. Tout prend du temps malgré tout, tout est question de rencontres, les choses sont posées, on ne fait pas, nous, on a travaillé en prod, on ne fait pas un film de 10 millions d'euros comme ça, en disant, regarde, c'est maintenant, on y va, pif, paf, pouf, on prend lui, elle, machin, truc, hop, c'est parti, tac. Non, c'est pas comme ça prend quand même des mois et des années. Voilà, je sais que vous êtes très impatient par rapport à ça, donc il faut aussi être à l'écoute de ça par rapport à votre agent. Il ne faut pas le pressuriser, le pousser, le machin. Il faut qu'il sente que vous êtes actif. Il faut vous donner des rendez-vous pro, c'est-à-dire on va ensemble à un festival où on s'y retrouve, voilà, où on se fait un point de temps en temps. Il faut mettre en place une collaboration qui convienne à l'un et à l'autre, qui rassure et l'un et l'autre. Ça, c'est très important aussi. Que votre agent n'ait pas l'impression que vous êtes un atome qui court dans tous les sens et qui effectivement fait des tas de trucs que lui ne cautionnera peut-être pas. En tout cas, il faut être quand même en accord sur la façon de faire, sur la stratégie, et puis, bah, se voir de temps en temps, prendre des nouvelles aussi, de façon assez courtoise, enfin normale, quoi, assez courtoise et normale. Mais c'est bien d'avoir des vrais, je trouve que c'est intéressant, moi, tous ceux qui ont des bonnes collaborations, c'est ceux quand même qui font des rendez-vous de travail. C'est-à-dire pas des rendez-vous de, bon là, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone, enfin qu'on s'est pas eu, ce serait bien qu'on se voit. Et puis c'est un espèce de match de tennis, bah là, tu m'as pas envoyé sur beaucoup de trucs, ou là, j'ai pas eu de réponse, là, ceci. Ils n'ont pas de compte à rendre, en fait. Des séances de travail où, ok, moi je suis là, là, j'ai avancé là-dessus, 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 est-ce que tu peux faire quelque chose, toi? Comment on avance pour ça? Moi, j'aimerais quand même à terme avancer par là. C'est, faut vraiment faire des séances de travail. Plus vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, les gens qui seraient bons pour vous de rencontrer, pour X raisons que vous allez leur donner et qui vont trouver valable, plus ils vous aideront à rencontrer ces gens et plus ils aideront à faire que ça avance. Plus c'est des idées qui sortent d'un peu comme ça, un peu tout le temps, un peu n'importe comment, un peu tout azimut, moins ils y croient et plus ils attendent que vous vous calmiez un peu avant de pousser et d'avancer. On ne les appelle pas pour rendre des comptes, quoi. Soyez à l'écoute aussi, vous avez besoin qu'ils soient à votre écoute, mais soyez aussi à l'écoute de ce que eux mettent en place, imaginent, bougent, faites-leur préciser. Je sais qu'ils sont pas très, c'est pas des pédagogues, hein, ils sont pas toujours très précis dans Et non, non, mais faut pas aller trop vite. Non, mais c'est pas le moment. Ok, mais ça veut dire quoi de pas être le moment, en fait? Posez-leur les questions qui vous permettront d'avoir des réponses ou ça vous permet d'attendre ou de respecter leur façon de faire.
Si vous êtes chez un agent qui vous a pas eu de casting, enfin, avec qui vous n'avez pas passé de casting pendant un an, par exemple, il s'agit pas de lui dire, justement, comme il disait Emmanuel, c'est de lui demander des comptes. Il faut peut-être arriver en questionnement sur comment ça se fait que est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans mes outils de com? Est-ce qu'il faut que je refasse des photos? Est-ce que ma bande démo est bonne? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas forcément parce que l'agent ne fait pas son boulot, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce que vous proposez, vous, et le
Et le
marché
marché.
sur lequel l'agent se positionne. Et peut-être qu'il ne vous positionne pas sur les bons rôles, peut-être qu'il vous positionne sur les bons rôles, mais vous n'avez pas les bons outils de com, peut-être qu'il vous positionne sur les bons rôles, vous avez les bons outils de com et vous préparez mal votre casting et vous ne vous en rendez pas compte, etc., etc. Donc il y a peut-être des choses comme ça aussi à préciser, essayer de comprendre, essayer de mettre en place une stratégie. Et s'il y a des castings sur lesquels il vous a proposé que vous savez que ça ne vous correspond pas, ou en tout cas vous connaissez bien l'attente et que eh ben, et que vous connaissez bien l'attente du réalisateur ou des castings, vous imaginez très bien ce qu'on attend de vous, mais que enfin, c'est pas du tout votre créneau et votre manière d'aborder un rôle. Peut-être c'est des choses aussi à préciser. Enfin, c'est vraiment questionner le pourquoi du comment et comment on avance et effectivement d'être précis au maximum avec l'agent. C'est vraiment un bras droit, donc il faut le considérer comme tel.
Et des fois, tout va bien, hein.
Oui, en
Vos coms
plus.
sont très bien, ils proposent. C'est juste que pour l'instant, ça passe pas pour d'autres raisons que peut-être ils pourront, pour lesquelles peut-être ils pourront vous donner des réponses, peut-être pas, parce que peut-être que eux non plus n'en ont pas. Et des fois, c'est juste parce que vous n'êtes pas à la mode, entre guillemets. Il y a quelqu'un d'autre qui avance ou qui a plus de visibilité ou qui est plus connu des décideurs. Enfin, il peut y avoir vraiment plein, plein, plein de choses qui font que ça tient pas à grand-chose les choix parfois de distribution ou d'avancement de carrière. Donc du coup, voilà, des fois tout va bien. C'est juste que continuer à vous entretenir, voir, rencontrer, faire des choses. Et puis, lui, il continue à uriner pour qu'à un moment donné, ça passe.
Et dans
Malheureusement, le
exactement.
marché est quand même très... Il y a du monde, quoi. Hein.
Pour aller dans ton sens, quelquefois ça va très bien et vous n'arrivez pas à décrocher les rôles, mais peut-être, moi, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand ça n'avance pas, c'est-à-dire que l'acteur est contacté régulièrement pour des castings sur des rôles qui peuvent lui correspondre et en fait ça ne débouche pas sur des rôles, ça arrive quand même que c'est une question de visibilité de l'acteur dans ce réseau-là. C'est-à-dire que l'acteur n'est pas assez connu, mais connu pas d'un point de vue notoriété. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas assez les gens ne le connaissent pas assez. Et c'est-à-dire que du coup, c'est la personne qui va être plus copain avec le réalisateur ou réalisatrice ou avec la production. Et donc c'est une question là, à ce moment-là, à talent égal, on
De
prendra
famille.
à talent égal, on prendra toujours l'acteur ou l'actrice qu'on connaît. Et donc, si vous n'êtes pas identifié et connu d'un point de vue amical, d'un point de vue amitié professionnelle, on s'entend, hein, des gens que vous rencontrez, bah forcément, à un moment donné, quand il y a le choix qui se pose, alors que vous avez déchiré vos castings, et bah, il y a toujours la personne d'à côté qui a autant déchiré que vous les castings, mais qu'on connaît, avec qui on a déjà passé un
Qu'on
moment au
a vu dans le
festival.
réseau, qu'on a déjà croisé, qu'on a déjà assez.
Voilà. Et donc, du coup, on a un peu plus envie, et c'est pour ça qu'elle sera choisie, qu'il ou elle sera choisie. Donc,
C'est pour ça que développer son réseau, c'est vraiment extrêmement important. On en
ça,
parle tout le temps, mais c'est vrai que c'est quand même, on revient beaucoup là-dessus à chaque fois, c'est plus les gens vous connaissent en vrai et pas derrière votre
ouais.
ordinateur, et mieux on se porte quand même. Hein. Tu avais une deuxième question, j'ai un projet de podcast de fiction produit que j'écris dans lequel je joue qui va sortir en mai sur les ondes. Yes, bravo! Comment amorcer la com autour du projet? On va pouvoir commencer un petit teasing. Les joies du teasing, de la com et du marketing.
Ben là, tout dépend. Alors là, pour le coup, c'est un vrai. Pour le coup, ça vaudrait le coup qu'on en parle et qu'on se fasse des vrais rendez-vous parce que là, on est vraiment sur du marketing pur et sur la visibilité. Et là, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, Thomas posait la question comment trouver un agent. Là, comment lancer un nouveau projet, c'est pas.
Alors, ceci dit, premier point auquel il faut vraiment faire très attention d'emblée, c'est il est produit, qu'est-ce que fait la prod? C'est la première chose à te poser comme question. Avant de mettre quoi que ce soit en place, on en discute avec la prod. Qu'est-ce qu'a prévu la prod? Est-ce qu'elle a prévu de la com? Est-ce qu'elle a une stratégie de mise en avant de ce podcast fiction? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme outil sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer et dont tu vas pouvoir te servir, à partir de quel moment elle s'y met, est-ce que toi tu peux t'y mettre avant, et quels sont tes droits par rapport à ça, à la diffusion de la com par rapport à ce programme. Ça, c'est vraiment le premier truc à faire, un petit rendez-vous avec la com, avec la prod, pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Qu'est-ce que je peux pas utiliser? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Et après, on voit. Et c'est top qu'il y ait une production parce que du coup, ça va être plus porteur, je pense. Tu n'es pas toute seule.
Oui, bonjour, bonne année à tous. Alors moi j'ai une question, il y a le festival Paris-Cours de Vent qui va se passer en janvier. Quelle est votre opinion dessus?
Paris-Courdevant, bah, ça a beaucoup bougé depuis, hein, c'est plus et maintenant ils font pas mal de longs, je crois. Ils travaillent plus sur les synopsis de longs et tout ça. Il y a des bonnes tables rondes. Moi, je trouve que les tables rondes sont très sympas, avec des personnes intéressantes sur les plateaux. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de se voir, de se parler, de s'entendre, de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux artistes. Et puis c'est juste à côté, donc c'est plutôt,
Bah,
ça peut être pas mal quand même.
sauf que là, elle n'est pas à côté.
Là, pour le coup, c'était pas à Paris.
Faire le déplacement pour ça, non?
Non, va plutôt à Clermont-Ferrand pour le cours et au premier plan d'Angers pour les premiers longs, parce que là, je pense que véritablement, il y a plus de, t'auras plus de possibilités. Au niveau professionnel, t'as quand même toute la, que ce soit à Clermont ou à Angers, t'as du scénariste au diffuseur. Paris-Courdevant, c'est pas forcément le cas.
Ça peut, mais c'est pas forcément, ouais.
Ça peut, mais c'est très aléatoire. Donc du coup, par contre, ce que tu peux faire, c'est regarder les tables rondes parce qu'ils les rediffusent en, elles sont en direct, en live. Moi, j'avais fait ça, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Ou comme je pouvais pas y aller, du coup, il y en avait une ou deux tables rondes qui m'intéressaient, donc je les avais regardées en direct, par visio. Ça peut être assez agréable. Mais ne, enfin voilà, quitte à se déplacer, autant aller sur un festival, où t'as, toute la chaîne de fabrication du film.
De toute façon, c'est un peu le problème des festivals à Paris, c'est-à-dire que les Parisiens, ils ont du mal à bloquer leurs dates,
Ouais.
enfin, à bloquer des jours pour aller dans un festival alors qu'ils sont au bureau. Enfin, c'est compliqué, en vrai, quand on va à Clermont-Ferrand, on décide de sortir de son bureau, d'aller à Clermont-Ferrand. Donc, de toute façon, on peut rien faire d'autre. Donc, on bosse le matin, on bosse le soir,
Ouais, puis
mais
tu
on sort.
consacres vraiment ta journée, ton temps, tu
Voilà.
rencontres les gens plus facilement. Quand on est à côté de chez soi, enfin, moi je le remarque, hein, quand je vais dans un festival, je viens pour la projo,
Et
je
je...
reste 10 minutes derrière, j'arrive 10 minutes avant et je repars, quoi.
Ouais.
Donc je prends finalement pas le temps forcément de. C'est inclus dans mon organisme, enfin, dans ma journée, et je me dis pas, tiens, je vais passer une journée là, je le fais pas. Alors que, sauf pour les journées cinématographiques, mais sinon, j'avoue que d'aller en festival, au moins les gens sont là pour ça, ils y restent, ils sont là et ils sont pas entre deux et ils se consacrent à ça, donc ils rencontrent beaucoup plus facilement les autres.
L'état d'esprit n'est pas le même, ouais.
Ouais.
Okay. Merci.
Un long métrage qui a finalement été coupé au montage, puis-je le mettre dans mon CV?
Bah
Oui.
oui, bien sûr.
Oui, parce que même si t'es coupé au montage, ce sera sans doute au générique.
Et puis de toute façon, tu as eu l'expérience.
Ouais.
En fait, c'est-à-dire que vous ne mettez pas sur votre CV les choses qui ont été diffusées. Vous mettez sur votre CV les choses que vous avez faites. Donc vous avez tourné dans un film, qu'il soit un court, un long, un petit rôle, un gros rôle, vous le mettez dedans. À partir du moment où vous en êtes content ou contente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que à un moment donné, un réalisateur, un casting, n'importe qui voit votre CV est susceptible de vous poser la question sur alors ça s'est passé comment la collaboration avec un tel, et si vous n'avez pas aimé le film, vous n'avez pas aimé le réalisateur, ou ça s'est pas bien passé, ou je sais pas quoi, et vous pouvez pas en dire du bien, surtout si c'est un petit rôle, bah n'en parlez pas. Voilà. Et si vous pouvez en dire que du bien, et ben à ce moment-là, mettez-le en rouge, en gros, en gras, qu'on vous pose plein de questions, vous serez très enthousiaste sur le sujet. Non, je plaisante, pas en rouge, mais enfin, vous
Non,
avez
mais
compris l'idée, quoi.
ouais.
C'est-à-dire que
Et puis ce qui est très important aussi, c'est pas tant ce que vous avez fait qu'avec qui vous avez travaillé.
absolument.
Ça parle pour vous. C'est simple, hein, nous on a travaillé à Ciné TV en prod. Bah voilà, il suffisait qu'on dise, bah ouais, moi j'ai travaillé avec Fabienne Servan-Schreiber à Ciné TV. C'est fou ce que les portes s'ouvrent, hein. C'est quand même fou. C'est assez dingue. Donc du coup, voilà, personne te demande ce que t'as fait là-bas, mais
On
par
s'en
contre,
fout.
tout le monde s'en fout. Mais par contre, t'as bossé dans cette boîte-là, donc ok, ça te met à un endroit où tout le monde a une idée de ce qu'est cette boîte de prod, de l'exigence qu'elle demande, du carnet d'adresses qu'elle a, du poids qu'elle a, des projets qu'elle fait, des programmes qu'elle met en place. Et tout de suite, ça te donne une image alors que t'as encore rien dit, quoi. T'as juste dit ça. Donc véritablement, c'est vrai que parce que tout le monde connaît cette personne, tout le monde connaît cette boîte de prod dans le milieu, ce qui fait que tout le monde en a une idée. Et soit
Positive.
voilà, plutôt positive là pour le coup, mais soit ça donne envie du coup de travailler avec toi, soit pas. Donc les gens avec qui vous travaillez, c'est très important. Après que vous ayez fait un petit, un grand, un moyen rôle, finalement, bon évidemment, on sera toujours plus content quand on a fait le premier rôle, mais ou des rôles importants dans le film, mais en soi, ça en dit déjà long.
Oui, justement, pour rebondir sur ça veut dire, si j'ai bien compris, que même les films dans lesquels on a tourné qui sont pas sortis, on peut les mettre sur le
Ah ben,
CV?
vous les
Ah
mettez.
bah oui,
Si les
surtout.
trois, bien sûr, si le film est 10 ans à sortir, tu vas pas mettre 10 ans à le mettre sur ton CV. Ça n'a
D'accord.
rien à voir, en fait. Le CV, c'est votre expérience. Votre expérience, tu as tourné dans tel film. Après, la vie du film, la vie de la post-prod, c'est un autre débat. Toi, tu as fait ton
D'accord.
expérience. Tu as déjà tourné dedans, bien sûr,
Ah
évidemment.
bah super.
T'attends pas qu'il soit
Merci.
sorti? Ah non, non, jamais.
Oui, non, c'est surtout mettez-le. Puis s'il va sortir, ça fait de la pub
Oui, et puis
pour ce
si.
film-là. Et
Bien sûr.
on sait qu'on va pouvoir te voir à l'écran parce que tu vas être dans ce film-là aussi. Donc c'est intéressant.
Oui, curriculum vitae, c'est vraiment votre parcours. Donc, c'est vos expériences que vous voulez mettre en avant ou pas. Et donc, le CV, pour refaire un petit aparté, c'est pas forcément sur une page. Hein. Ça peut être sur 2 pages, c'est pas très grave. Hein.
Oui, à partir du moment où vous avez quand même commencé à avoir une grosse expérience, vous pouvez aller jusqu'à 2 pages.
Oui.
Et enfin, ou recto verso comme vous voulez, mais c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a 50 ans et qui a qu'une page, c'est très louche.
C'est presque louche, ouais.
C'est très très louche en fait. Hein. À part si vous avez eu que des premiers rôles et tout le monde vous connaît, je vois pas bien sinon.
Mais même eux, hein.
Mais même eux, oui.
Même eux, quand ils ont leur CV, il fait 2 pages,
Non,
quoi.
non,
Donc,
vous
en
pouvez tout à
fait.
fait aller à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, c'est normal que vous ayez 2 pages. Après, vous enlèverez les choses qui vous semblent les moins significatives, les moins intéressantes que vous avez fait avec peu d'enthousiasme. Mais sinon, non, non, c'est quand même, allez-y, hein, mettez quand même de ce que vous avez fait, quoi. Et qui est significatif de ce que vous êtes aujourd'hui, finalement.
Ok.
Les vœux au casting et au pro, est-ce bien ou en ont-ils déjà ras-le-bol? Alors,
Alors, ça, dans la crède, il y a deux. C'est à qui envoyer ses vœux et quand envoyer ses vœux. Il y a déjà 2 podcasts. Donc, je ne sais pas si la personne a la crède ou la crède découverte. En tout cas, il y a déjà des podcasts sur les vœux.
il y a déjà les réponses.
Il y a déjà des réponses, mais on peut quand même
Et
redire.
comme on l'a dit tout à l'heure,
Oui, les vœux.
si tu es sincère, si vous connaissez les personnes, si ce n'est pas juste du lèche-botte, histoire de se faire mousser, tout va bien.
Mais bien sûr,
Faites des
oui.
vrais vœux.
Faites des vrais vœux.
Voilà. Et ça, ils en auront pas ras-le-bol parce que ça va sonner vrai.
Voilà. Et en plus, les vœux, ça perd un peu de son. Enfin, comme il y a eu beaucoup de vœux les années précédentes, on en reçoit moins maintenant.
D'accord, on voit que ça va de mal en pis alors.
Donc, du coup, voyez la vidéo du passage à l'an 2002 et du passage à l'an 2024 sur Times Square. Il y a eu 2 vidéos
Ah
comparatives. C'est assez. Oula! Ça donne l'humeur, ça donne l'ambiance. C'est tellement pas la même, c'est assez étonnant. Bref, ceci dit, mis à part, on en reçoit quand même beaucoup moins maintenant. Donc, on ne reçoit que des gens qui ont envie vraiment de nous souhaiter des belles choses et
ouais.
nous envoyer des good vibes. Donc, si vraiment vous voulez le faire, faites-le. Et ce sera effectivement, comme dit Emmanuel, si c'est sincère.
Oui, non, si c'est sincère, faites-le. Si vous aimez, envoyez vos vœux, faites-le. Et faites-le avec les gens que vous appréciez, avec qui vous avez des bons contacts, des bons rapports, avec qui vous avez bien travaillé cette année, que vous avez rencontré, qui vous ont enthousiasmé. Là, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais faites-le sincèrement, ça se sentira et ce sera beaucoup plus lu, du coup. Est-ce qu'il faut mettre aussi les films long-métrage autoproduits sur un CV?
Pour répondre à cette question en tant que comédienne, vous mettez tous les films que vous voulez sur votre CV, si vous avez tourné dedans, évidemment, et peu importe la production, en fait, l'autoproduction n'est pas forcément un critère de non-sélection. Enfin, je veux
Non,
dire,
si t'as un
c'est.
bon rôle et que ça te plaît et que c'est très significatif aussi de ce que t'es, de ce
Bien
que t'aimes
sûr.
faire, mets-le, oui.
C'est arrivé de près de chez vous, c'était un film presque autoproduit, et il aurait été dommage de ne pas le mettre sur son CV. Donc, non, non, non. Il y a vraiment. C'est pas un problème, c'est la qualité, c'est le résultat qui va vous
Ouais.
laisser décider si oui ou non vous voulez mettre ce film sur votre CV. C'est-à-dire qu'un film produit par une grosse production qui est très mauvais, vous ne vous posez pas la question. Un très bon film autoproduit, il n'y a pas de raison de se poser la question. Vous le mettez si vous avez envie d'en parler, que vous trouvez ça super.
Ouais, si le
Et
résultat est bien, profitez-en.
voilà, bien sûr, il faut le mettre. Après, si vous trouvez que le résultat est pas bon, n'en mettez pas, parce qu'on risque de vous poser des questions dessus, et du coup, vous pourrez pas trop en dire grand-chose. Donc,
Ouais.
pour le coup, la profession ne sait pas que ça s'est produit forcément, donc bah, faites un petit peu l'impasse là-dessus. Mais oui, le fait,
Non, mais
là,
mettez-le, mettez-le.
oui, le fait, le financement d'un film n'intervient pas dans votre expérience, en fait. Vous avez l'expérience d'avoir tourné dans un film, il a été financé ou pas, enfin, peu importe comment il a été
Puis au
financé, en
moins,
fait.
ça en fera parler. S'il y a une projo à un moment donné que quelqu'un décide de faire, ce serait top.
Bah oui.
Instagram vital et en quoi mettre ou pas mettre? Et quoi mettre ou pas mettre, pardon. Instagram, bah, vital, je dirais pas ça quand même, hein, on n'est pas. Mais c'est mieux.
Alors, pareil, hein,
C'est
là sur la crête, on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup développé tout ce qui est Instagram, Facebook. On a aussi parlé de TikTok, des intérêts. On n'a pas parlé de LinkedIn et Twitter, donc devenu X. On n'en a vraiment pas parlé parce que
parce que
pour 1000 raisons.
X, non.
Mais Instagram, oui, il faut y
C'est quand
être.
même mieux,
C'est
ouais.
quand même mieux de toute façon. C'est-à-dire que c'est autant d'endroits où un réalisateur ou un casting pourra avoir référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'un réalisateur ou d'un casting, la première chose que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone et vous allez chercher sur Google et ou sur Instagram et ou sur IMDb.
Ils font pas.
Ils font pareil. Donc, comme ils font pareil, ben, si vous trouvent sur un Instagram et qu'ils voient des choses sympathiques de vous, et ça leur donne envie, ou ça dit, ah oui, je vois très bien, ou ah, super, ou voilà, ça donne un aspect positif. S'il n'y a rien sur vous, bah, si la personne qui parle de vous est suffisamment convaincante, ils vous rencontreront quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir Instagram pour tourner, il faut pas exagérer. Mais ça peut soutenir une démarche, un discours et une recommandation de quelqu'un. Après, si vous l'avez pas, c'est pas non plus indispensable. Maintenant, on a vraiment fait un podcast sur tous les intérêts d'avoir Instagram et d'être sur les réseaux et ils sont quand même pas négligeables. Ouais.
Qu'est-ce qu'on met sur le CV exactement? CV image ou est-ce qu'on peut mettre tout exemple, récitant avec des orchestres, chanteurs dans des chœurs d'opéra et d'opérette, machin dans ce cas ou non? Le CV pour le coup, ça dépend vraiment de la personne à qui t'envoies. Pourquoi les gens regardent vos CV? Déjà, on a un CV pour l'audiovisuel, un CV pour le théâtre. Après, on va peut-être avoir un CV pour la chanson. En fonction de à qui on envoie, il faut quand même mettre en premier et en avant ce qui va intéresser les personnes à qui vous envoyez. Et ensuite, vous mettez le reste. Et on sélectionne dans le reste qu'est-ce qui peut être intéressant pour cette personne, pour les directeurs de casting, pour les réalisateurs de films, si on envoie au monde de l'audiovisuel télévisuel, est-ce que c'est intéressant de leur mettre qu'on est récitant dans des orchestres, chanteurs d'opérette? Est-ce que c'est pas plus intéressant si ils savent que effectivement on fait ça, mais on n'en mettra qu'une ligne parce que c'est pas la peine d'en mettre 15. Donc du coup, tout le contenu du CV se pense et se réfléchit en fonction de ce que vous voulez que la personne en face retienne de vous pour ce qu'elle a à faire avec.
Et ayez toujours en tête qu'un outil de com et le CV en fait partie, ça doit rassurer vos interlocuteurs.
Ouais.
Ça doit les rassurer puisque c'est pas sur un CV qu'on recrute quelqu'un, jamais.
Non,
C'est
jamais.
pas sur une photo qu'on recrute quelqu'un, jamais. Et c'est pas sur une bande démo non plus. C'est sur un ensemble de choses. C'est sur la bande démo, plus le CV, plus la photo, plus la rencontre, plus les essais. Et là, tout ça va faire qu'à un moment donné, votre interlocuteur va se sentir rassuré. Il va se dire, OK, cette personne correspond à mes attentes et va pouvoir fournir le boulot que je vais attendre de lui ou d'elle. Et du coup, le CV en fait partie. Donc, effectivement, comme disait Emmanuel, alors moi, je pense qu'il faut faire attention à cette idée de un CV par cible parce que.
Ah non, c'est pas un CV par cible, par grosse
Bah, c'est ce
famille.
que j'ai compris dans ce que tu as dit. Alors,
Non,
d'accord,
non,
alors
pardon.
précise.
En général, on fait deux CV différents, mais trois si vous avez une autre casquette, si vous êtes réalisateur,
Oui, d'accord.
évidemment. Si vous êtes aussi chanteur, comme là c'était le cas, il y aura peut-être un troisième CV. Il y a le CV pour l'audiovisuel, le CV pour le théâtre, le CV pour la chanson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous mettez en premier ce qui intéresse la personne à qui vous envoyez.
Ça, c'est
Donc,
sûr.
mais c'est par grosse famille, c'est pas, on va pas faire un CV par,
OK.
effectivement, pardon. C'est pas un CV par personne, pas du tout. Sinon, on va pas s'en sortir. Et ensuite, vous allez résumer, en général, les parties qui sont moins intéressantes pour la personne à qui vous envoyez. Si vous envoyez une prod de gospel, et à un moment donné, tout ce que vous faites au théâtre ou
En
voire en
audiovisuel.
audiovisuel. Alors, en audiovisuel, ça a carrément moins d'intérêt. Au théâtre, bon, bah, c'est de la scène quand même, on se dit pourquoi pas. Mais vous allez résumer ces parties-là. Et effectivement, au fil de votre carrière aussi, quand vous avez un gros CV qui fait plus de 2 pages, vous allez résumer les parties en décidant vous-même de ce que vous allez mettre en avant. C'est-à-dire que pour la partie audiovisuelle, par exemple, vous allez dire, bah voilà, plus d'une trentaine de films, dont pour les plus importants. Et vous listez les plus importants, ou alors dont pour les plus récents, et vous listez les derniers, dont pour les premiers rôles, et vous listez ceux qui ont les premiers rôles, ceux où vous aviez les premiers rôles. Bref, vous allez décider de ce que vous voulez mettre en avant sur cette partie-là. Et ça vous permet de la résumer. Et en même temps, puisque vous mettez une petite phrase d'introduction à ce paragraphe en disant plus d'une trentaine de films, dont pour les plus ceci ou les plus cela, on voit quand même que vous en avez fait une bonne trentaine. Simplement, quand vous affichez beaucoup de casquettes différentes et que vous développez chacune de ces casquettes, ça peut être assez perturbant pour les personnes à qui vous envoyez. Donc parfois, il vaut mieux soit ne pas en mettre certaines d'expérience, soit taire un certain nombre de choses que vous faites par rapport aux gens à qui vous envoyez. J'avais des CV avec des dates, sans date dans la rubrique expérience pro. La version sans date me semblait bien. Vous avez un avis là-dessus? Sans date, c'est en général quand tu as un agent.
Oui, c'est les agents qui mettent là.
L'agent, il est garant du fait que tu travailles, t'es pro, tu sauras faire, t'arrives, t'es professionnel. Quand vous
D'accord.
n'avez pas d'agent,
Quand même mieux.
c'est un peu mieux de mettre quand même des dates. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un CV un peu long, vous n'êtes pas obligé de mettre des dates partout. Vous mettez des dates sur les 4 ou 5 premiers items de chaque partie. Théâtre, audiovisuel, télé.
Et après, moi, je conseille quand même de mettre la date en fin de ligne et pas de démarrer par 2024, tel truc, 2023. C'est plutôt
Mais plutôt.
le titre du projet, nom de metteur en scène ou du réalisateur, etc., etc. Entre parenthèses, à la fin de toute l'énumération, que la date n'arrive pas en premier. Comme ça, si jamais à un moment donné, il manque une date ou qu'il y a un trou dans votre CV,
Voilà.
entre guillemets, bah, ça saute pas aux yeux. C'est plutôt en fin de, l'info est
D'accord.
là, mais c'est pas la première chose qui est mise en avant. D'ailleurs, c'est pas la première chose qu'on regarde, on s'en fout un peu. Alors, comment justifier un trou sur un CV?
Ah,
À
on ne le
part,
justifie pas.
on justifie pas.
On ne le justifie pas du tout. Vous n'avez rien à
Ne pas
justifier à
justifier.
personne. Vous avez eu un trou, vous avez un trou. Il peut arriver plein de trucs, hein. Donc effectivement, vous ne justifiez pas. D'où l'intérêt aussi de ne pas mettre de pas mettre une bonne colonne de date là dès le début de chaque ligne, mais de privilégier de mettre en avant le titre des choses dans lesquelles vous avez travaillé, puis ensuite toutes les infos, et de mettre en bout de ligne, entre parenthèses, la date. Et vous faites ça sur les quatre derniers trucs, et puis c'est tout. Et si vous voulez pas, vous mettez que sur le dernier truc parce que c'est le plus récent,
Ou vous mettez pas de date
ou
si
vous mettez
vraiment
pas
ça
de
vous
date
gêne.
si véritablement.
On peut vous demander une explication et ça peut intriguer. Et donc la personne va vous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait entre 2020 et 2016?
Et là, vous leur direz,
Pourquoi?
si vous n'avez pas justifié d'un arrêt, d'un changement de. Puis des fois, on a fait autre chose. Venir à Paris démarcher les agents, est-ce que c'est utile? Non. Parce que tu ne viens que si tu as des rendez-vous. Sinon, ce sera la peine, parce que tu risques de venir pour rien, parce qu'ils ne vont pas t'en donner sur place. Donc, il faut les démarcher avant et profiter des événements pro pour les rencontrer peut-être et faire un premier contact. À moins que dans les prises de contact que tu vas faire en direct, il y en ait un qui dise, bah oui, voyons-nous. Auquel cas, tu peux de toute façon toujours commencer par proposer une vidéo. Et puis, on se voit quand tu viens et à l'occasion de multiples choses que tu vas faire à Paris. Autant en profiter pour faire plein de trucs. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous souhaite plein de bonnes
Au
choses, une très belle
revoir.
journée et un très bon début d'année.
Et à dans 2 mois.
Merci à tout le monde pour cette bonne session de questions-réponses et à très vite pour la prochaine.